RFI, 9h à Paris, 10h à Gaza, 7h en temps universel.
Julien Coquel-Rohen.
Et avec Diane Berger, un nouveau journal qui commence dans la bande de Gaza.
Israël et le Hamas ne trouvent toujours pas de nouvel accord de cessez-le-feu concernant l'enclave palestinienne. Sur place, les distributions de denrées humanitaires, organisées désormais sous l'égide d'Israël, tournent au fiasco, vous l'entendrez. Les derniers meetings ont lieu ce soir en Pologne. C'est la fin de la campagne présidentielle. La course s'annonce serrée entre le maire pro-européen de Varsovie et un historien nationaliste soutenu par le parti ultra-conservateur Droit et Justice. Marine Le Pen chahutée en Nouvelle-Calédonie. Les plus radicaux des partisans de la Calédonie française l'accusent de vouloir abandonner l'archipel. Et puis les supporters trépignent d'impatience. La finale de la Ligue des Champions, c'est demain en football. Le Paris Saint-Germain joue contre Milan. Si le club français gagne, il remportera le titre de champion d'Europe pour la première fois de son histoire.
Le cessez-le-feu proposé par les États-Unis et validé par Israël ne convainc pas le Hamas.
Le mouvement islamiste palestinien dénonce une proposition qui ne répond pas aux demandes des habitants de Gaza, notamment la fin de la guerre et de la famine. Gaza, où les distributions d'aide humanitaire sont désormais sous le contrôle du gouvernement Netanyahou via une fondation américaine. Et c'est un véritable fiasco selon les Palestiniens. Des Gazaouis se sont retrouvés entassés pendant des heures derrière des grilles, soumis à des mouvements de foule sous un soleil de plomb, tout cela pour ramasser quelques denrées. Reportage à Gaza, dans la zone d'Al-Mawassi, à l'ouest de Ran Younes, par Rami Al-Megari avec Alice Froussard.
Lorsqu'il a appris qu'il y avait une distribution d'aide alimentaire, Hani Chat, déplacé Gazaoui dans la zone d'Al-Mawassi, n'a pas vraiment hésité. Le riz coûte trop cher, la farine manque, même les gens qui ont des moyens financiers ne peuvent plus rien se payer, dit-il.
Nous avons réussi à entrer dans la zone avec difficulté et puis nous sommes passés. Mais la situation était dangereuse car il y avait un char et ça nous faisait peur. Il s'approchait, il bloquait la route, les gens s'arrêtaient, puis ils repartaient et les gens avançaient de nouveau.
Hani décrit les barrières, les panneaux, interdiction de s'approcher.
Celui qui les dépassait se faisait tirer dessus. Quelqu'un a dépassé d'un mètre et il s'est pris une balle.
Tout ça pour récupérer des cartons avec de la farine, de l'huile, des pâtes, des fèves, un peu de sel, parfois du halawé, cette pâte de sésame. Tamer Al-Shaer, un autre déplacé, a réussi à prendre un colis malgré le chaos total.
Mais en réalité, ce n'est même pas assez pour une semaine. Avec une famille de 5 personnes, ça ne fera que 3 ou 4 jours.
Et alors que l'intégralité de la population de Gaza fait face au risque de famine, certains désespérés par le manque de nourriture sont gourmands, ajoute Wassim Lahem, lui aussi était sur place.
Il y en a qui ont pris 20 cartons de 30 kilos pour les revendre. Que Dieu les punisse, ils font grimper les prix pour tout le monde. À mes yeux, c'était bien mieux avant avec les ONG. Là, c'est du gâchis, c'est vraiment prendre le risque de mourir pour rien. On a marché environ 4 kilomètres, c'était exténuant. Et on a fait ça seulement pour avoir de quoi manger et boire.
Wassim précise que rien que sur le chemin du retour, il a vu 4 morts au milieu de la route.
Israël reprend par ailleurs le dialogue très discrètement avec la Syrie. Les deux pays sont pourtant techniquement en guerre depuis 1948. Or, les nouvelles autorités syriennes, impatientes de réhabiliter leur pays sur le plan international, multiplient les gestes de bonne volonté envers les États-Unis et leurs alliés. Et donc, selon les informations de l'agence Reuters, cela passe notamment par le début de pourparlers secrets et directs avec Israël. Ablad Junaidi.
Israël et la Syrie seraient en contact direct pour prévenir les conflits à leurs frontières, selon Reuters, qui en a eu confirmation par 5 sources variées. Depuis la chute de Bachar al-Assad, l'armée israélienne a multiplié les incursions terrestres et les raids visant à diminuer les capacités militaires de Damas, dont elle craint les intentions des nouveaux dirigeants. Thomas Barak, le nouvel émissaire, tout juste nommé par Donald Trump, était à Damas hier. Il a appelé à un accord de non-agression entre la Syrie et Israël dans des propos rapportés par la chaîne Al Arabiya. De son côté, le gouvernement syrien multiplie les gestes de bonne volonté, rencontrant des représentants de la communauté juive, arrêtant deux hauts responsables du djihad islamique palestinien, co-auteurs de l'attaque du 7 octobre. Depuis quelques semaines, les bombardements israéliens sur la Syrie ont diminué. Sans parler de normalisation avec le voisin, Ahmed al-Sharaa, le président syrien par intérim a reconnu que des entretiens indirects avaient bien cours. Après sa rencontre avec le président syrien, Donald Trump a levé les sanctions économiques pesant sur la Syrie. Il a estimé que le dirigeant syrien était disposé à normaliser à terme ses relations avec Israël, mais que cela prendrait du temps.
Abla Junaidi. Concernant la politique intérieure des États-Unis maintenant, les surtaxes de Donald Trump sont finalement maintenues, provisoirement en tout cas. Une cour d'appel suspend en urgence la décision de première instance qui demandait la suppression de ses droits de douane. Cela le temps de se prononcer sur le fond du dossier. Mercredi, le tribunal de commerce international des États-Unis avait estimé que les surtaxes non ciblées relevaient du Congrès et non pas du pouvoir du président américain.
9h05 à Varsovie, l'heure du dossier de ce journal. C'est le dernier jour de la campagne présidentielle aujourd'hui en Pologne.
Les deux candidats tiennent ce soir leur dernier rassemblement. Dimanche, les électeurs sont appelés à choisir entre le maire pro-européen de Varsovie et un historien nationaliste soutenu par le parti Droit et Justice. Pour en parler, on retrouve à Varsovie notre envoyé spécial. Bonjour Anastasia Becchio.
Bonjour.
La course est très serrée. Au premier tour, le candidat centriste est arrivé en tête, mais son avance est faible.
Oui, l'écart entre Rafał Trzaskowski et Karol Nawrocki est tellement faible que l'élection pourrait se jouer à quelques dizaines de milliers de voix près. Dans ce contexte, les partisans du leader d'extrême droite, Sławomir Mentzen, arrivé troisième au premier tour, vont jouer un rôle déterminant. Les échanges avec les candidats qu'il a organisés sur sa chaîne YouTube ont fait beaucoup parler ici, tout comme la bière qu'a partagée avec lui le maire de Varsovie à l'issue de cet entretien, comme le rappelle la politiste polonaise Marta Prorwitz-Jazowska.
Ça a été une démarche très intéressante, très critiquée par de nombreux électeurs traditionnels de la plateforme civique qui lui en ont voulu d'avoir noué des liens avec l'aile droite de l'échiquier, mais cela a été aussi accueilli positivement par d'autres électeurs. L'intention de Trzaskowski n'était aucunement de cautionner Mentzen, et je pense qu'il a peut-être même été un peu surpris de la façon dont ça s'est passé et du fait que cette bière partagée ait pris plus de place dans l'espace public que la discussion en elle-même.
Anastasia, on le comprend, le candidat du parti au pouvoir doit jouer les équilibristes.
Oui, il a tenté de séduire les électeurs de l'extrême droite, mais il doit aussi veiller à ne pas désenchanter les électeurs de gauche. C'est d'ailleurs à Gdansk, ville progressiste, symbole de lutte contre l'oppression soviétique, qu'il tiendra ce soir son dernier rassemblement public. Karol Nawrocki va lui terminer sa campagne dans l'Est, une région plus acquise aux positions conservatrices. Ses positions, il pourra les défendre s'il parvient à être élu, en usant de son droit de veto, comme l'a fait le président en sortant, Andrzej Duda, face au premier ministre Donald Tusk, qui a bien du mal à faire avancer les dossiers de la réforme de la justice ou du droit à l'avortement. Marta Prorwitz-Jazowska.
Karol Nawrocki sera pire que Duda. L'actuel président a usé de son droit de veto à 8 reprises pour s'opposer à des lois portées par le gouvernement. Mais on estime que Nawrocki sera encore plus dans l'opposition à Donald Tusk, qu'il sera plus rigide vis-à-vis de ce gouvernement pour des raisons idéologiques.
Et en début de semaine, la secrétaire à la sécurité intérieure des États-Unis est venue soutenir Karol Nawrocki en Pologne avec l'accord, a-t-elle spécifié, du président Donald Trump.
Anastasia Becchio à Varsovie pour RFI. Juste à côté de la Pologne, l'Ukraine pose ses conditions pour participer au prochain pourparlers proposé par la Russie à Istanbul lundi prochain. Kiev demande que Moscou lui transmette un document listant ses exigences pour parvenir à un accord de paix durable après plus de 3 ans de guerre initiée par le Kremlin. L'Ukraine qui reçoit le soutien d'Emmanuel Macron depuis Singapour où il se trouve pour le sommet de Shangri-La dédié à la sécurité en Asie. Le président français déclare qu'il faut désormais que les États-Unis prennent des sanctions supplémentaires contre Moscou. Je le cite, c'est un test de crédibilité pour les Américains.
L'actualité française, c'est aussi cette visite mouvementée ce matin pour Marine Le Pen en Nouvelle-Calédonie.
Oui, la chef de file du Rassemblement National a proposé une pause institutionnelle pour sortir l'archipel français du Pacifique Sud de l'ornière avant un nouveau référendum dans 40 ans. Une position qui se veut pragmatique, mais qui ne satisfait pas du tout les plus radicaux des partisans de la Calédonie française. C'est un reportage de Charlotte Menvy.
Les drapeaux tricolores sont de sortie devant la salle qui doit accueillir Marine Le Pen sur la commune du Mont d'Or. Les gros bras aussi. Paul Quinquagénaire Canac a voulu déployer le drapeau indépendantiste. Il se fait aussitôt refouler.
Pourquoi vous m'interdisez de venir ici? Regarde-moi ça, la broussille de première fois.
Une scène qui choque, y compris parmi les partisans de la Calédonie française.
Si on veut vivre tous ensemble ici, il va bien falloir à un moment qu'on s'unisse, non? Je suis pas venu pour ça.
Dans la salle, l'ambiance est électrique. La venue de Marine Le Pen était attendue. Mais l'élu RN qui réalise d'excellents scores dans l'archipel est accusé de vouloir larguer la Nouvelle-Calédonie.
Ce qu'ils veulent, c'est nous foutre dehors. Parce qu'on est des blancs, mais c'est la vérité, vous ne l'avez pas vécu. Et là, vous êtes en train de nous donner des leçons, comme si vous connaissiez la Nouvelle-Calédonie, mais on voit bien que vous ne connaissez pas.
Le problème, le référendum que Marine Le Pen entend proposer dans 40 ans, afin de prendre en considération la revendication indépendantiste, un discours qu'elle a bien du mal à faire entendre.
C'est-à-dire qu'il y a les Kanaks qui ont une peur existentielle de voir disparaître leurs coutumes, leur culture. Mais ne soyez pas comme ça. Je veux dire, quand vous êtes comme ça, j'ai l'impression que rien sera possible. C'est malheureux quand même.
Marine Le Pen repart samedi du territoire. Elle entend à son retour à Paris demander à Emmanuel Macron une place à la table des discussions sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Charlotte Manvie, au Mont d'Or en Nouvelle-Calédonie, RFI.
Nous sommes le 30 mai, c'était il y a 50 ans, la création de l'Agence Spatiale Européenne.
L'ESA, un demi-siècle donc de fusées, de sondes et de satellites. Quelques jolis succès, mais des ambitions, elles, toujours limitées. Surtout si on compare l'agence à ses équivalents chinois et américains. Pour préparer la suite, Simon Rosé, l'Europe va devoir se poser la question des moyens qu'elle entend consacrer au secteur spatial.
L'ESA a réalisé de très belles missions. Elle détient le record de l'atterrissage le plus lointain, la sonde Huygens sur Titan, une lune de Saturne en 2005. Rosetta et son robot Philae sont les seuls à avoir orbité et s'être posés sur une comète. Plus proche, l'Agence spatiale européenne opère les satellites Sentinel, ambitieuse flotte d'études de la Terre et du climat pour le programme Copernicus, une référence mondiale. Il y a aussi les lanceurs, Ariane et Vega, le corps des astronautes. Mais ces derniers illustrent également bien les limites de l'agence. Ils ne peuvent pas décoller à bord de fusée européenne, le continent n'a jamais développé un engin souverain permettant le vol habité. L'ESA compte donc aujourd'hui sur les sièges mis à disposition par les Américains. Car l'ESA reçoit peu d'argent en comparaison avec ses homologues, 8 milliards d'euros par an, quand la Chine en dépense presque 15 milliards et que la NASA en reçoit plus de 25 milliards. Pour ces programmes, il faut donc nouer des partenariats et ainsi dépendre d'autres puissances. ExoMars l'illustre bien, un rover très performant construit en Europe qui ne sait cependant pas le poser sur Mars. Un accord avait été noué avec la NASA pour qu'elle s'en occupe, accord dénoncé par la nouvelle administration Trump. L'engin pourtant prêt ne verra donc peut-être jamais le sol de la planète rouge.
Simon Rosé, chef du service environnement climat de RFI. 2 mois et demi d'audience pour un procès déclaré nul. En Argentine, le procès sur les raisons de la mort de Maradona va devoir recommencer du début à une date encore incertaine, car l'une des juges a participé à un documentaire non autorisé justement sur ce procès. Elle a donc été récusée mardi. Cette personne était jugée pour des négligences qui ont potentiellement causé le décès de l'icône du football mort en 2020.
5400 policiers et gendarmes vont être déployés à Paris pour la finale de la Ligue des Champions.
Le match a lieu à Munich, mais il va électriser les supporters du PSG. Le club parisien affronte samedi soir l'Inter Milan à Munich donc pour la finale de la Ligue des Champions de football. Une occasion rare de décrocher pour la première fois le titre de champion d'Europe. Elisa Savat s'est rendue à la boutique du club sur les Champs-Élysées où beaucoup se pressent pour acheter les maillots de leurs joueurs fétiches.
Ça fourmille devant la boutique du Paris Saint-Germain.
Ils se sont fait dévaliser.
Abdoulaye sort les mains vides.
J'avais prévu de prendre le maillot Ferd que j'ai toujours pas, parce que j'ai tous les autres. Et je m'étais dit que pour le rose, pour samedi soir, ça pouvait être pas mal. Mais ils ont pas ma taille, donc je vais le prendre sur internet.
Mais il reste chanceux, abonné, il regardera le match directement au Parc des Princes.
Tous ensemble, on chantera. On va gagner. Face à Inter, ça va être compliqué, mais je suis confiant, on va le faire.
Terence, lui, sort du magasin les mains remplies de sacs.
J'ai acheté 3 maillots pour moi, mon cousin et un ami.
Pressé, il part à Dubaï où il regardera le match entre amis. La victoire, il y croit.
Alors, si je n'avais pas espoir, j'aurais pas dépensé 356 euros, je crois, un truc comme ça. Donc je pense qu'au niveau des pronostics, ça va être juste, mais qu'on va gagner. Je ne sais pas combien au niveau du score, mais je pense qu'on va gagner.
Omar, 10 ans, sort avec un grand sourire. Il est fan du PSG et de...
Hakimi, parce que je suis marocain et je joue défense. C'est à cause de ça, ça fait du sens.
Accompagné de sa sœur Rayana, ils font déjà des pronostics.
Ça serait bien s'ils font un 0-0, ils vont au pénalty. Le suspense jusqu'au bout. Mais je dis 4-2 pour Paris. 4-2, c'est beau, je trouve.
Mais qu'importe le score, ce samedi, c'est sûr, les supporters seront là.
Elisa Savat, et puis donc Inter Milan contre Paris Saint-Germain, ce sera samedi à 19h, temps universel. Et puis en tennis, le tournoi de Roland-Garros continue. Après les éliminations hier des Français Gasquet et Monfils, les temps forts de ce vendredi chez les femmes, la numéro 1 mondiale Arina Sabalenka va affronter Olga Danilovic. Ce sera à partir de midi sur le court Philippe Châtrier. Et chez les hommes, dans la soirée, le numéro 2 Carlos Alcaraz jouera contre le Bosniaque Damir Dzumur.
Et voilà, c'était le journal de Diane Berger. Merci beaucoup Diane. Bonne journée. RFI Matin, la suite, c'est la revue de presse avec vous, Léa Boutin-Rivière, le tour de la presse internationale et à la une, un pas en avant, deux pas en arrière.
Mais c'est le rythme auquel avance la lutte entre les tribunaux américains et le président Donald Trump en ce moment. La justice a suspendu ses droits de douane, et bien pas de problème, l'administration réplique et obtient une suspension d'urgence de la décision, raconte le Guardian. C'est là surtout un moyen de gagner du temps pour que, explique le Wall Street Journal, les responsables américains évaluent leurs options au cas où elles doivent trouver une nouvelle autorité légale pour imposer les droits de douane présidentiels, car c'est bien là le problème. Les tribunaux ont suspendu ces mesures au motif que le président, lui, n'avait pas l'autorité pour les imposer.
Et à quoi ressemblerait la stratégie de l'administration américaine ?
Selon le Wall Street Journal toujours, l'équipe du président examine une réponse en deux temps. D'abord, se tourner vers une disposition jamais utilisée de la loi sur le commerce de 1974 afin d'imposer des droits de douane provisoires sur des pans entiers de l'économie mondiale pendant 150 jours. Pendant ce temps-là, le président pourrait, en vertu de la même loi, concevoir des droits de douane individualisés pour chaque grand partenaire commercial. À moins que, pointe le Washington Post, l'administration ne décide d'ignorer cette décision de justice, de continuer de récolter les droits de douane et de défier quiconque de l'arrêter. Ce ne serait pas la première fois que l'équipe Trump adopte cette attitude, souligne le New York Times, même si le Post admet que cette option nucléaire déclencherait immédiatement une crise constitutionnelle.
L'exécutif retient son souffle et l'économie aussi.
Les entreprises américaines sont bien obligées, grimace le New York Times, de digérer rapidement ce dernier rebondissement dans une guerre douanière aux airs de montagne russe qui, une fois de plus, rend impossible toute planification au-delà de quelques semaines. Une plaie pour les commerces et plus largement pour l'image des États-Unis. Un entrepreneur interrogé par Le Quotidien martèle que le pays a besoin d'être connu à travers le monde comme un partenaire fiable. Or, c'est pour l'instant tout l'inverse qui se produit.
Et un autre entrepreneur américain fait la boue ce vendredi.
Pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'Elon Musk lui-même. Un petit tour et puis s'en va, ironise le Figaro. On a appris effectivement cette semaine le départ du milliardaire américain du Doge, ce département d'État créé pour sabrer dans les dépenses administratives du pays, avec un bilan plus que mitigé, juge Le Quotidien, puisque si Elon Musk promettait plus de 1000 milliards de dollars d'économies sur le budget fédéral, il n'a finalement réussi à en obtenir que 150 malgré ses licenciements spectaculaires et autres coups de tronçonneuse. Sa méthode, celle du chaos, de l'outrance et de la précipitation, tense le Figaro, a échoué. Retour aux affaires donc, X, Tesla et surtout SpaceX, puisque, rappelle une autre journaliste du Quotidien, selon Elon Musk, l'avenir sera extraplanétaire ou ne sera pas.
Et il faut dire que la planète Terre est en piteux état.
En témoigne l'effondrement de ce glacier hier à Blatten, petit village suisse quasi intégralement englouti, dévoré même, dit le Bild allemand, par 3 millions de mètres cubes de roches et d'eau boueuse. Fini la vue autrefois magnifique sur les Alpes, là où se dressait avant la montagne, trône à présent un grand trou béant. Après cet éboulement, reste, raconte le temps, les chants des oiseaux et les pales des hélicoptères, seuls désormais à troubler le calme d'une vallée qui semble presque déserte. Dans cette vallée défigurée, les vaches s'affalent dans les prés, le soleil rayonne. Il rappelle que la nature continue de vivre à son rythme. Pour autant, on est loin du jour d'après, alerte Bild. La prochaine catastrophe se profile puisque le lit de la rivière, toute proche, est bloqué par les décombres et il a commencé à pleuvoir, ce qui augmente les risques d'inondation. Le temps signale quant à lui que le site est si dangereux que personne ne peut intervenir sur les lieux. Et au-delà de Blatten, cet événement, aussi rare soit-il, jette une lumière crue sur la mauvaise santé des glaciers. D'autant qu'une nouvelle étude, rapportée cette fois par le New York Times, est formelle. En dépit des stratégies de limitation de la casse climatique, certains glaciers disparaîtront, quoi qu'il arrive.
Léa Boutin-Rivière pour la revue de presse. Merci beaucoup. C'est une affiche inédite que vous suivrez demain sur RFI, la finale de la Ligue des champions de foot ce samedi soir et face à face à Munich. Le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan, deuxième finale pour le PSG qui espère franchir le plafond de verre d'un titre européen. Autre paire de manches pour l'Inter Milan, l'un des plus grands clubs au monde, au palmarès déjà impressionnant et qui se voit bien accrocher une nouvelle étoile de Ligue des champions à son écusson. Rencontre avec des supporters milanais au micro de Cédric De Oliveira.
Maillot bleu, roi et noir. l'avoir fièrement porté, casquette Nerazzurri sur la tête, Mario affiche clairement ses couleurs. Pour lui, c'est l'Inter Milan et rien d'autre.
Parce que c'est la plus grande équipe d'Italie. Je suis fan de l'Inter depuis que je suis petit. C'est l'équipe de mon cœur.
À côté de lui, Michele s'est même tatoué l'écusson de l'Inter sur l'avant-bras. Fan depuis toujours, il ne veut surtout pas que l'on confonde avec le Milan AC, l'autre club de la ville.
Oui, c'est l'équipe la plus importante de Milan. Depuis que je suis enfant, je soutiens l'Inter. Comme toute ma famille, mon père, ma mère, mes oncles. Et puis c'est une passion. Une fois que vous commencez à l'encourager, vous ne pouvez plus vous arrêter. Il n'y a que l'Inter à Milan.
Créé il y a bien longtemps, en 1908, le club provient d'une scission au sein du Milan AC qui ne voulait pas accueillir de joueurs étrangers à l'époque. Les dissidents lui ont donné un nom, International, et aujourd'hui, les deux rivaux se partagent la suprématie de la ville et même leur stade. Mais depuis quelques années, ce sont bien les Nerazzurri qui sont au-dessus. Comme l'explique Alfio Musmara, il est journaliste pour Antena 3, une chaîne de télé lombarde.
Bien sûr qu'il y a une grande rivalité, mais aujourd'hui, l'Inter est dans un cercle vertueux avec plus de continuité, plus de victoires. Aujourd'hui, sur le papier, il n'y a pas photo. C'est une équipe nettement supérieure au Milan AC.
7 trophées en 4 ans et l'image d'une équipe généreuse et combative, guidée par son capitaine, l'Argentin Lautaro Martinez. Et l'Inter s'est donc hissé en finale de la Ligue des Champions, après avoir notamment écarté le Bayern Munich et le Barça, au cours d'une confrontation qui restera dans les annales de la compétition. Arrivé il y a 4 ans, l'entraîneur Simone Inzaghi a façonné un groupe qui n'abdique jamais et ça pourrait servir face au PSG.
Il cuore sera déterminant.
C'est évident, on joue avec le cœur. C'est déterminant dans notre équipe et ça sera un aspect important du match. Et mon équipe l'a souvent montré ces dernières années. Ce qui fait qu'en tant qu'entraîneur, je suis très fier de guider un groupe comme celui-là. On sait quoi faire. On a joué 2 finales en 3 ans et je ne pense pas que cela soit arrivé avant dans l'histoire du club. C'est sûr qu'il faudra un grand Inter de Milan pour gagner ce match.
Le club milanais a le plus vieil effectif de la compétition, près de 30 ans de moyenne d'âge, mais beaucoup ont donc déjà disputé une finale. Un atout peut-être déterminant.
Ils ont déjà joué une finale contre Manchester City il y a 2 ans et ils avaient réussi à faire jeu égal contre une équipe qui a dépensé beaucoup d'argent. 2 ans après, ils sont de retour en finale et ça pourrait être une belle revanche pour tout ce groupe de joueurs.
Cette finale ressemble donc à un dernier défi pour la bande à Simone Inzaghi. Si elle atteint son objectif, ce serait la 4e Ligue des Champions dans l'histoire du club. La première depuis 2010. Cédric de Oliveira, de retour de Milan, RFI.
PSG Inter Milan, la finale de la Ligue des Champions que vous suivrez demain sur RFI. Soirée spéciale à partir de 18h40, temps universel. C'est une décision qualifiée de politisée et discriminatoire par Pékin. On part en Chine au lendemain de cette annonce signée. Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, a promis de révoquer de manière agressive, selon ses mots, les visas des étudiants chinois aux États-Unis, notamment ceux ayant des liens supposés avec le Parti communiste ou étudiants dans des secteurs jugés sensibles comme la science ou la technologie. Bonjour Cléa Broadhurst.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Quelle réaction à Pékin après ces annonces ?
Alors pour le moment, beaucoup de prudence, hein. C'est-à-dire que c'est pas encore la panique, mais les étudiants chinois commencent à s'interroger. Les conseillers spécialisés dans les démarches pour étudier à l'étranger appellent leurs clients à la discrétion, éviter les publications sur les réseaux sociaux, ne pas commenter la politique américaine, en particulier sur des sujets sensibles. Alors pourquoi ? Parce que Washington prévoit désormais d'examiner les comptes de réseaux sociaux sur les 5 dernières années. Et les autorités chercheront des signes de radicalité, de sympathie pro-palestinienne ou de critique des États-Unis, même celles qui sont en
Et quel impact cela pourrait-il avoir ?
Eh bien, ça pourrait être massif, car l'année dernière, plus de 270 000 étudiants chinois étaient inscrits dans les universités américaines. Ils représentent une part essentielle des étudiants internationaux. Et si les visas sont suspendus ou même annulés, cela pourrait provoquer une baisse importante des inscriptions et donc fragiliser les finances des universités américaines qui sont très dépendantes des frais de scolarité étrangers. Les étudiants pourraient aussi se tourner vers d'autres destinations. On pense au Royaume-Uni, à l'Australie, au Canada, ce qui affaiblirait le rôle des États-Unis en tant que leader mondial dans le domaine de l'éducation. Et puis, sur le long terme, c'est aussi l'innovation scientifique qui pourrait en pâtir, car les étudiants comme les chercheurs chinois, eh bien, ils jouent un rôle essentiel dans la recherche scientifique et le progrès technologique aux États-Unis. Donc, limiter leur participation pourrait entraver l'innovation et nuire à la compétitivité du pays dans des domaines assez critiques.
Et justement, cela fait écho à ces nombreux scientifiques chinois qui rentrent aujourd'hui en Chine.
Oui, complètement. On parle de reverse brain drain, donc une fuite des cerveaux à l'envers. Chaque semaine ou presque, les médias chinois annoncent le retour d'un chercheur de haut niveau depuis les États-Unis. Pourquoi ? Parce que la Chine leur déroule le tapis rouge. Financement, laboratoire moderne, poste prestigieux, elle attire les jeunes post-docs comme les scientifiques confirmés.
Et Cléa, ce qui est aussi, c'est aussi une réponse stratégique aux tensions actuelles.
Oui, car en face aux États-Unis, les financements deviennent plus compliqués et les chercheurs d'origine chinoise sont parfois sous pression ou dans la méfiance. Et ces retours, eh bien, ils pourraient peser lourd parce qu'on ne peut pas négliger le rôle central des chercheurs chinois dans les avancées américaines en intelligence artificielle, en biotechnologie ou encore en ingénierie. Et leur départ pourrait freiner cette dynamique, réduire l'avance des États-Unis dans des domaines clés. Et enfin, eh bien, ces tensions politiques fragilisent les collaborations universitaires entre les deux pays qui étaient un pilier du progrès scientifique mondial.
Cléa Broderst, merci beaucoup et bonne journée à Pékin où il est 15h25. Dans les dessous de l'Infox ce matin, direction l'Arabie Saoudite. À quelques jours maintenant du Hajj, le grand pèlerinage des musulmans à la Mecque. Il débute mercredi, mais déjà cette semaine, une fausse info a circulé. Un prétendu crash d'un avion rempli de fidèles venant de Mauritanie. Bonjour Olivier Four.
Bonjour.
Cette Infox s'est répandue sur les réseaux sociaux. Tout était faux, mais les autorités mauritaniennes ont quand même dû publier un communiqué pour couper court à la rumeur, tant les messages de condoléances s'étaient multipliés.
Oui, cette fausse information a suscité une vive émotion au Sahel, au Sahara, en Afrique du Nord notamment. On l'a retrouvée sur les plateformes X, Facebook ou TikTok. Sur les posts en question, on peut lire « Un avion de pèlerins mauritaniens s'est écrasé en mer Rouge, faisant plus de 200 morts ». L'infox est généralement accompagnée d'images sorties de leur contexte ou générées par IA.
Et le public y a cru ?
Oui, au moins dans un premier temps, à en juger par le nombre de témoignages de soutien aux familles des victimes postés juste après l'annonce du crash. L'infox est apparue autour du 27 mai. Elle a eu peu de retentissement en Europe, mais en Afrique, une multitude d'utilisateurs l'ont immédiatement commentée. Le site en ligne CNews au Sénégal, qui a fait un travail de vérification pour démonter cette infox, écrit par exemple « La diffusion de fausses informations autour du Hajj est malheureusement courante à l'approche de la saison du pèlerinage, une période sensible où des millions de fidèles se rendent en Arabie Saoudite. Ces fausses nouvelles jouent sur l'émotion collective pour générer du clic ou faire du buzz au détriment de la vérité et de la sérénité des proches des pèlerins. » Fin de citation.
On pouvait facilement démontrer que cette info était fausse.
Oui, sur les réseaux sociaux, beaucoup ont cherché à établir les faits, des fact-checkers comme de simples contributeurs. Effectivement, face à une nouvelle comme celle-là, le premier réflexe, c'est d'aller consulter des sites sérieux, des chaînes nationales ou internationales pour voir si elles parlent de ce crash. Il est évident que 200 morts dans l'accident d'un avion pour la Mecque, ça ferait la une des journaux partout dans le monde. Ensuite, les images que l'on trouve dans ces infox sont impressionnantes, mais ne concordent pas avec ce que l'on pourrait découvrir sur le site d'un accident aérien, surtout si l'avion est tombé en mer, où finalement on ne retrouve le plus souvent que quelques débris qui flottent à la surface.
Alors comment avez-vous fait pour détecter ces infox ?
Les principales images qui circulent autour de cette infox montrent des carlingues en feu. Pour l'une, il s'agit visiblement d'une IA, pour l'autre d'une image sortie de son contexte. Pour l'IA, nous avons trouvé des invraisemblances, comme ces hublots carrés qui n'existent pas sur les avions de ligne d'aujourd'hui. Le modèle représenté n'a pas grand-chose à voir avec les Boeing de Mauritania Airlines. Concernant la photo de face d'un avion dévoré par les flammes, une recherche par image inversée nous permet de retrouver son origine. Il s'agit d'un appareil cargo incendié en 2007 sur l'aéroport de Pointe-Noire au Congo et en aucun cas d'un avion de ligne mauritanien en 2025.
Et les autorités ont très vite dénoncé cette tentative de désinformation.
Dans un communiqué officiel, Mauritania Airlines a précisé que les rumeurs concernant ce crash circulant sur les réseaux étaient totalement infondées. Tous les pèlerins mauritaniens ont atterri en sécurité et aucun incident n'a été enregistré. Les autorités mauritaniennes ont également démenti. Ces réactions officielles sont intervenues rapidement, dans les heures qui ont suivi l'apparition de l'infox, sans pour autant stopper sa propagation.
Olivier Four pour les dessous de l'infox. Merci beaucoup.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
À 48 heures de son concert au Casino de Paris, Smarty sera notre invité. Le rappeur star du Burkina Faso est aussi un homme engagé dans la vie, pour les droits de l'enfant, pour l'accès à la culture, pour la démocratie. Il nous parlera de ses combats et de ce concert qui se prépare.
Sur le Pont des Arts,
avec la compagnie Corsair,
du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI. Le goût du monde, Clémence de Navy.
L'entendez-vous, la petite cuisine silencieuse qui s'opère à notre insu? Pas un bruit et pourtant, pas un instant ne se passe sans qu'il y ait transformation. La vie partout et même en nous, cette magie, c'est la fermentation. Foncièrement réjouissante, libre, enivrante, une histoire de petits pas ou de rébellion ce dimanche à 11h30 en temps universel.
Le goût du monde, Clémence de Navy sur RFI.